Monsieur Tassé, bonjour.
Bonjour.
Bon, tout d'abord, parlons de nouvelles internationales et commençons avec Kim Jong-un qui a fait un autre voyage en Chine.
Oui, il y a des gens qui vont faire des voyages en Floride pendant le temps des fêtes. Lui s'est rendu en Chine, il y est en ce moment et évidemment il va rencontrer le président chinois. Et c'est pas très compliqué ce qu'il va faire là-bas. Il va tout simplement gagner davantage de soutien de la part de la Chine et en même temps, eh bien, il va servir de ça dans les négociations face aux États-Unis. Et en même temps, je te dirais, il y a la Chine aussi qui est très heureuse de le voir parce que, évidemment, les Chinois sont en train de négocier avec les Américains, tu sais qu'il y a cette guerre commerciale qui se profile et donc ils gardent dans leur poche, et je pense que le terme est approprié, ils gardent Kim Jong-un qui est là. Parce qu'il faut jamais oublier que les Chinois et les Nord-Coréens ont des intérêts très similaires. Mmh. Et leur principal intérêt, c'est de faire sortir les Américains de la péninsule coréenne. Les deux veulent ça. Ouais. Alors, c'est ce qui se joue en ce moment. Et là-dessus, Trump est très affaibli. Le front qui s'était constitué contre la Corée du Nord s'effrite. La Russie, la Chine et d'autres pays font entrer plein de produits en Corée du Nord. Les Nord-Coréens n'ont toujours pas démantelé leur arme atomique. Ouais. Kim Jong-un a gagné du prestige internationalement.
Mais pourtant, il avait dit qu'il le ferait. Quelqu'un qui a cru ça un seul instant?
Écoute. Non, mais c'est plus drôle que le bye-bye, là, ce que tu me dis là. Quand même.
Mais non, mais il l'avait dit ben quand oui. Il est allé.
On est en train de discuter d'une nouvelle réunion entre Trump et puis Kim Jong-un. Ouais. Mais tu sais, pour Trump, là, la grosse question, c'est de ne pas perdre la face vis-à-vis son électorat. Mm-hmm. Parce que moi, je suis certain que la Corée du Nord n'abandonnera rien, ou si elle le fait, elle va faire semblant d'abandonner des choses. On n'aura pas des inspecteurs qui vont aller dans tous les sites pour voir s'ils ont ou non des bombes atomiques. Ouais.
Mais pendant ce temps-là, mince consolation, au moins il n'y a plus d'espèce de panique à toutes les semaines là, quand la Corée du Nord faisait des essais de missiles.
Ce qui était ridicule.
Oui, c'est ça. Là, ils le font peut-être de façon secrète, je ne sais pas.
Ils n'en ont plus besoin parce qu'ils ont toutes les données informatiques pour faire des simulations par ordinateur. Ouais. Ils n'ont plus besoin de faire des simulations en temps réel, des vraies simulations sous terre. Donc, ils peuvent continuer à développer leurs bombes atomiques sans que personne ne le sache.
Bon, pendant ce temps, Erdogan n'est pas content.
Pas content, le monsieur.
Pourquoi donc?
Ben, tu sais, hier, on a parlé de John Bolton, qui est en Israël, qui avait contredit Donald Trump en disant « Écoutez, on va rester en Syrie le temps qu'il faudra pour que l'État islamique soit vraiment démantelé. » Parce que, on avait parlé de ça, il y avait la question des puits de pétrole, Bolton n'en a pas parlé, mais aussi pour protéger les Kurdes. Évidemment, donc Erdogan n'est vraiment pas content et lui dit « Écoutez, vous vous trompez complètement. Les Kurdes ne sont pas, je cite, des frères d'armes des Américains. Pour lui, il faut véritablement anéantir les terroristes kurdes qui sont en Syrie. » En fait, ce sont les Kurdes, hein, dans sa tête, il n'y a pas une grande différence.
Ouais.
Et donc, il promet de commencer des opérations militaires contre les Kurdes de Syrie, malgré le fait qu'il y ait 2000 Américains qui soient là. Et des nouvelles russes nous disent, en fait, ce qu'ils essaieraient de faire en ce moment, c'est de mettre la main sur les 22 bases américaines qui sont en Syrie, mais occupées par les Kurdes. Ils voudraient que ces bases soient détruites, soit qu'elles soient remises aux Turcs, ce qui n'arrivera pas, je peux te le dire tout de suite.
Bon, le Guatemala, pendant ce temps, expulse la commission d'enquête de l'ONU qui est chargée d'enquêter sur la corruption.
Mais oui, et pourtant, Morales, le président, était très content de les avoir il y a 3 ans. Ils ont fait un beau travail, ils ont fait des enquêtes, ils ont fait arrêter des douzaines de hauts fonctionnaires. Tout allait très bien jusqu'à hier, alors que Jimmy Morales a dit, écoutez, vous avez 24 heures pour faire vos valises et quitter le pays. Pourquoi, d'après toi? Parce que la commission a commencé à enquêter sur le président Jimmy Morales.
Ah ouais, là, c'est plus gênant.
Alors, il trouve ça moins drôle, parce que pendant ses élections en 2015, il aurait accumulé de l'argent de façon illégale, etc. Donc, comme les élections s'en viennent, de toute façon, au Guatemala, cette année, je pense bien, effectivement, quand même, on fait sortir cette commission d'enquête de l'ONU. Évidemment, l'ONU n'est pas contente. Le secrétaire général de l'ONU, M. Guterres, a fortement critiqué cette décision du gouvernement guatémaltèque. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse?
Les gilets jaunes en France, le gouvernement a décidé de sévir. Et hier, le message a été assez clair quand même. Hein? On va sévir
énormément. Ouais. D'abord, il y a des casseurs. Donc, on va prendre quelques mesures. D'abord, Les masques vont être interdits pendant les manifestations. On ne pourra plus porter de masque pour se camoufler le visage.
Ouais.
Ensuite, les casseurs vont être interdits de manifestation. Ils n'auront pas le droit de manifester. Et on va déployer 80 000 policiers lors des prochaines manifestations. Donc, probablement ce samedi, on en attend d'autres. Et on va punir ceux qui prennent part à des manifestations non autorisées.
Et là, 80 000 policiers, c'est pas mal plus que ce qu'il y avait de manifestants la
oui.
dernière fois. Là.
C'est plus que le nombre de manifestants. Ouais. Parce que la dernière fois, il y avait 50 000 manifestants. Ouais. C'est beaucoup moins qu'il y a quelques semaines, au début du mouvement, en novembre, ils étaient 280 000. Donc, le mouvement semble se ralentir, semble s'étouffer. Mais il faut se souvenir que le gouvernement français a promis une vaste consultation, qu'il a promis toutes sortes de mesures. Donc, les gens attendent. Et les politiciens sont mieux de livrer la marchandise, parce que s'ils ne livrent pas la marchandise, là, je pense que oui, les manifestations vont reprendre de plus belle encore.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, je dirais, d'aviver la flamme des manifestants en disant, regardez, on va sévir, on va arrêter des gens. On veut d'ailleurs durcir la loi, de ce que j'ai compris, pour éviter que justement, il y ait de la casse.
Oui, mais ça va dans les deux sens. Ouais. Il y a des gens qui... En général, les Français appuient les gilets jaunes, mais ils n'appuient pas la casse.
Ouais.
Et ils veulent que le gouvernement prenne des mesures contre les casseurs. C'est un peu comme dans les stades de football en France. Tu sais, les gens appuient les équipes, ils aiment bien qu'il y ait beaucoup de manifestations dans les estrades, mais pas des casseurs, pas des hooligans. Et les hooligans sont interdits à travers toute l'Europe, de toute façon.
Ouais.
Alors, c'est un peu le même état d'esprit, tu sais. Il faut que les gens puissent continuer à avoir le droit de manifester, mais on ne veut pas de casseurs. Et d'ailleurs, les gilets jaunes eux-mêmes ne veulent pas de casseurs. Mm-hmm. Donc, on va voir ce qui va arriver avec tout ça. Moi, ce que je regarde vraiment, c'est ce que le gouvernement va faire, les politiques qu'ils vont décider, la consultation qu'il va y avoir. Est-ce que les principales revendications des gilets jaunes vont être satisfaites? Oui ou non? Ou en partie? C'est ça qu'on va voir dans les prochains mois. Et si jamais ça marche pas, à ce moment-là, il pourrait y avoir un problème. Mais les gilets jaunes ont un gros problème. Hein. Il n'y a pas de vrai leader. Pas de leader, ça veut dire que ton mouvement risque de tourner en rond.
Bon, et là, évidemment, la nouvelle que tout le monde attend ce soir, 21h, Donald Trump qui va prendre la parole et qui va essayer de convaincre les Américains qu'il y a une grosse crise de sécurité publique, entre autres, à la frontière.
C'est ce soir à 9h, sortez le pop-corn. Donc, il veut annoncer, semble-t-il, l'état d'urgence nationale, où il pourrait le faire. Sauf que, évidemment, plus personne ne le croit. Et en fait, les républicains et les démocrates disent, écoutez, eux-mêmes, enfin, surtout les démocrates, mais ils veulent avoir du temps d'antenne aussi. Les démocrates vont avoir du temps d'antenne après Trump. Donc, ils vont pouvoir lui répondre. Sur le mur même, il y a un sondage qui a été fait par, qui a été commandé par CNN, qui révèle que 57% des Américains sont contre le mur et que 38% seulement sont en faveur. 38%, c'est très proche du nombre d'Américains qui est pour les politiques de Trump, qui trouvent que Trump fait un bon boulot. Mm-hmm. C'est à peu près 42%. Donc, pas sûr que Trump arrive à convaincre toute la population. Il y a vraiment une entreprise de séduction. Mais je te donne quand même les chiffres parce que lui, il va plaider pour l'urgence nationale. Alors, je te laisse juger avec les auditeurs. Le nombre d'immigrants sans papiers qui traversent la frontière est passé de 300 000 à 400 000 en 2018. Le nombre de demandes d'asile a augmenté de 70% en 2018 et donc il est passé à 93 000. Mais remarque qu'il n'y a que 10% des demandes qui sont acceptées.
Ouais.
Et le nombre de familles qui traversent illégalement la frontière est rendu à environ 50 000 par mois, donc 600 000 par année. Sauf que, au début des années 2000, c'était beaucoup plus que ça. Tu avais, au début des années 2000, le double de personnes qui traversaient. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, écoutez, il n'y a pas d'état d'urgence. Comment allez-vous justifier ça? Et beaucoup de gens pensent que si Trump essaie de décréter l'état d'urgence, ben, ça va aller immédiatement devant les tribunaux.
Oui, c'est ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, l'état d'urgence en tant que tel? C'est que ça donne des moyens extraordinaires au président, n'est-ce pas?
Oui, c'est quelque chose qu'on a normalement en temps de guerre ou en temps de catastrophe naturelle.
Ouais.
Ça permet au président de dépenser de l'argent dans toutes sortes de domaines sans avoir à attendre les crédits du Congrès ou des décisions du Congrès. Et donc, il voudrait construire le mur en décrétant justement l'état d'urgence nationale et en se servant de l'armée pour faire ça. Mais est-ce qu'il va pouvoir le faire réellement? Pas sûr du tout qu'il soit capable de le faire réellement.
Et là, le mur, plus ça va, plus le mur se change en clôture frost. Là. La clôture
frost
de broche.
Très haute, par exemple.
Très haute, mais quand même, clôture pareille.
Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Il dit ah, si les gens ne veulent pas une clôture de béton, ben, je vais la construire en acier. on va voir ce qui va arriver. Puis il y a des questions de chaque côté. Hein. Ça traverse le Rio Grande.
Ouais.
Ça va aller où? Puis il y a des gens qui vont faire paître leur bétail au Rio Grande. Comment est-ce que ça va se faire, ça aussi?
Ouais.
C'est pas du tout fait, ce mur.
Écoute, puis l'entreprise est tellement, comment dire, gigantesque, énorme. Il y a quelques années, une dizaine d'années de ça, peut-être un peu plus, j'étais allé dans la région d'El Paso, au Nouveau-Mexique. Et on est allé là-bas parce que, bon, il y avait l'entraînement, il y a une base qui s'appelle Fort Bliss, qui est une grosse base de l'armée américaine, et qui est juste au pied d'une montagne. Puis quand tu montes la montagne, t'as le Rio Grande l'autre bord. Puis après ça, c'est le Mexique.
Bien sûr.
Et on voyait au pied de la montagne qu'il y avait des maisons avec un peu de lumière. Et le soir, il n'y avait plus de lumière ou à peu près pas de lumière, tu sais. Puis là, on demandait aux policiers de l'endroit, parce qu'on jasait avec eux autres un peu, c'est quoi ce secteur-là? Et les policiers nous disaient, mais ce sont des illégaux mexicains qui traversent la frontière, qui viennent s'installer en bas et qui ont construit au fil des ans des maisons. Puis j'ai dit, est-ce que vous y allez là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils disent, on va pas là. J'ai dit, pourquoi? Ben, ils disent, quand on s'approche, on se fait tirer dessus.
Oh.
Alors, ils disent, on n'y va pas. Donc, c'est sur le territoire américain, les policiers n'y vont pas.
Ça, c'est terrible.
Parce qu'ils se font tirer dessus, ils se font canarder.
Mais c'est ça le problème avec Trump, c'est qu'il met le doigt sur un problème qui est réel. Tu as 10 millions d'illégaux aux États-Unis, et bon, c'est vrai que ça tend à diminuer un peu, il y en a de moins en moins, mais c'est quand même un problème. Mais c'est comme toujours avec Trump, il a l'art de mettre le doigt sur de vrais problèmes, mais ses solutions sont souvent pires que les problèmes. Parce qu'en ce moment, ce qu'il va dire qu'il y a une urgence nationale parce que justement, il y a une crise humanitaire parce que les familles sont séparées, etc. Mais c'est lui-même qui a demandé que ce soit comme ça, loi soit appliquée comme ça.
Mais tout ça pour démontrer que l'entreprise est quand même colossale puis qu'il y a des problèmes tout le long de la frontière. Il y a des situations qui sont comme celle-là, pires même. Et donc, c'est un immense casse-tête.
Mais en ce moment, c'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est de sauver la face.
Exact.
Qui entre les républicains et les démocrates va gagner? Qui entre Trump et les démocrates va gagner?
Loïc Tassé, merci beaucoup.
Je t'en prie, à demain.
Et puis, bien sûr, on va écouter ce soir 21h.
Ah oui, avec le popcorn.
Exactement, le show de Donald Trump sur à peu près toutes les chaînes
américaines.
On s'en parle. On s'arrête un tout petit moment.